Avec vous au microphone, Claude Julien, mon invité aujourd'hui, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Francine, on parlait ensemble de toute la dimension du dialogue à l'intérieur de cette parabole.
Cette parabole, oui. L'exégète suisse Daniel Margera suggère, comme d'autres avec lui d'ailleurs, que souvent les dialogues dans les paraboles sont aussi une illustration du dialogue que Jésus pourrait avoir ou souhaiterait avoir avec certains de ses interlocuteurs. Et donc, si les dialogues, comme dans notre parabole, incarnent des prises de position différentes, c'est vraisemblablement parce que des auditeurs pensent autrement que Jésus. Hein, il y a comme un choc entre deux systèmes de valeurs, d'une certaine manière. Alors, les auditeurs surpris, ce sont des personnages réels, tandis que les ouvriers, ce sont des personnages inventés qui sont tendus comme un miroir, on pourrait dire, aux gens réels.
C'est ça. Ce que vous dites, c'est que les personnages de ce dialogue-là pourraient représenter les interlocuteurs de Jésus.
Oui. Et disent ce qu'eux-mêmes pourraient avoir envie de dire lorsqu'ils voient Jésus agir de telle manière. Par exemple, ici, les ouvriers de la première heure vont murmurer contre le maître de la vigne. Ce verbe, c'est le même que lorsqu'on voit les pharisiens dans la vraie vie murmurer contre Jésus qui mange avec des pécheurs. Vous voyez? Okay. Donc, la mise en scène d'un dialogue là est un miroir tendu aux auditeurs réels qui pourraient dire la même chose ou qui pensent la même chose sans le dire. Ça pourrait être aussi élargi jusque vers nous-mêmes, d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait dire ou penser comme ces personnages-là? Donc, c'est une bonne manière d'entrer finalement dans une parabole, de se laisser interpeller par la parabole, c'est d'entrer dans ce dialogue. On a probablement tous supposé un jour ou l'autre, en entendant cette parabole, que le maître allait donner à ce travail égal, salaire égal, et donc en entendant « je vous donnerai ce qui est juste », on a présumé que le salaire serait diminué en conséquence. C'est sûr que c'est un récit qui a une visée didactique, là. Il joue pas du tout sur une situation réelle. C'est pas des suggestions pour négocier une convention collective.
Ce que j'allais dire, c'est que c'est la parabole la plus anti-syndicale que je connaisse.
Ouais,
et je me souviens qu'à la petite école, la première fois qu'on l'a entendue, elle avait vraiment provoqué un choc. Moi, j'ai un souvenir de ça.
Ouais.
Ça a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est ça.
Je suis pas sûr qu'on avait les bonnes réponses.
C'est-à-dire, c'est peut-être
mais on a été
bien
drôlement
pas trop avoir de réponses. Plutôt, c'est ça, d'être interpellé. Mais je dirais que l'important, c'est de se rappeler que les paraboles ne sont jamais là pour donner une leçon de vie sur la situation qu'elles mettent en scène. La parabole met en scène une réalité concrète pour qu'on reconnaisse notre vie. Et ensuite,
elle
fait déraper le portrait de la vie familière et tout à coup, elle devient surprenante. Puis on se dit, voyons, c'est quoi ça? Ça, c'est la proposition de la bonne nouvelle, finalement. Donc, il ne s'agit pas, évidemment, ici de suggestions sur la gestion des conditions de travail ou des contrats sociaux réels. Ça veut dire que ce déroulement-là est vraiment fait pour être choquant. Ça doit pas être escamoté. Là, il y a une grogne chez les ouvriers de la première heure. Murmure, critique à voix basse, on pourrait dire chialer au sens québécois du terme. Et ils soulignent avec raison la disproportion. Ils ont travaillé toute la journée avec le poids de la chaleur. Hein, on imagine les autres là, qui sont embauchés à 5h de l'après-midi.
Ça dépasse toute rationalité.
Oui, oui, c'est absolument injuste.
Ouais.
Et le maître de la vigne ne va pas contredire leur plainte. Il dit pas « Non, le salaire est proportionné ». Contredire, ce serait établir l'égalité des mérites. Hein. Ce sur quoi les ouvriers critiquent, c'est « La somme de travail fournie n'est pas égale entre nous et eux ». Et tu fais de nous des égaux. Alors, contredire cette affirmation-là, ce serait dire, non, au fond, vous avez travaillé de façon égale. C'est pourquoi je vous paye de façon égale. Et là, il n'y aurait plus rien de choquant. Et on a une parabole rabbinique qui dit cela. C'est une parabole qui date de 3 siècles après Jésus-Christ, vers 325. C'est une parabole qui a été racontée dans une homélie à l'occasion du décès d'un jeune rabbin. Si vous voulez bien nous lire cette parabole.
Un roi avait embauché plusieurs ouvriers. Il y en avait un qui se donnait trop de mal pour son travail. Que fit le roi? Il l'amena faire les 100 pas avec lui. Quand le soir arriva, les ouvriers vinrent recevoir leur salaire, et le roi paya aussi un salaire complet à cet ouvrier-là. Les autres se plaignirent en disant, « Nous nous sommes fatigués tout le jour, tandis que lui ne s'est fatigué que 2 heures, et il lui donne un salaire complet, comme à nous. » Le roi leur dit, « Celui-ci s'est fatigué en 2 heures plus que vous durant toute la journée. » Ainsi, en 28 ans, Rabbi Bon s'est fatigué dans l'étude de la Torah plus qu'un autre disciple sagace n'aurait pu le faire jusqu'à l'âge de 100 ans.
Vous voyez, hein, l'équivalence, elle est établie ici. Hein, ce que le roi dit, c'est, d'accord, il n'y a pas équivalence en temps travaillé, mais il y a équivalence en effort fourni. Donc, il a travaillé seulement 2 heures, mais il a travaillé plus que vous. C'est intéressant de voir à quel point c'est différent dans l'optique qui est proposée, alors que c'est fascinant aussi de voir à quel point c'est semblable au niveau de la manière de procéder de ce récit, la construction même du récit, l'utilisation de cette image-là. On est vraiment dans le même monde mental. Hein? C'est clair que Jésus n'est pas le premier à raconter des paraboles. C'était déjà présent dans le monde rabbinique. Il procède comme les rabbins, mais il fait aussi comme eux, mettant la parabole qu'il raconte au service de ce qu'il veut transmettre. Et ce qu'il veut transmettre est comme à l'opposé de... Moi, je trouve qu'on a un bel exemple là, qui ressemble parfois à certaines homélies aussi. Hein. Ceux qui ont été engagés la dernière heure, ils n'étaient pas fatigués, alors ils ont fait, puis ils étaient tellement contents.
Ouais. Ouais, une tentative de... On est tellement démonté, si on peut dire, surpris que là, on se fatigue à trouver des explications. Puis comme vous dites, bon, les ouvriers de la dernière heure sont en forme, ils ont pas le poids du soleil.
Non, ils sont reconnaissants.
Ils abattent un travail considérable, etc.
C'est hein, ça. Et à ce moment-là, on rétablit l'égalité, qui nous paraît être la justice,
ouais.
Bien sûr.
Là, on fait ouf.
Et donc, hein? on ouais. enlève à la parabole sa raison d'être.
Voilà.
Alors, prenons en compte et au sérieux la protestation des ouvriers. Hein, il y a 2 solutions pour eux, pour qu'un salaire soit juste. Ou bien les derniers doivent être moins payés qu'eux-mêmes, ou bien eux-mêmes doivent être plus payés que le contrat initial. Et là, en passant, ça veut dire qu'il compterait aussi sur la générosité du maître, puisque le contrat d'un denier est un contrat équitable. Mm-hmm. Voilà. Alors, la réponse du maître prend en charge ces 2 possibilités-là. Vous voyez, la réponse du maître, c'est d'abord en fonction de la 2e possibilité. Hein. Écoute, tu t'attends à plus, moi j'ai convenu ça avec toi, tu étais d'accord, c'est juste. Donc, il établit bien qu'il ne commet pas une injustice en le payant 1 denier pour sa journée. Puisque c'était juste le matin, ça n'est pas injuste arrivé au soir. Donc, faudrait faire attention en passant. Il ne reproche pas au point de départ cette attente de l'ouvrier. Je dirais, il n'y a pas de condamnation dans la parabole du système de rétribution au mérite. Hein? C'est juste, ça s'appelle la justice, et voilà, je te donne ce qui est juste. Ça n'est pas condamné de dire « je te paye au mérite ». Il agit selon le système de la justice rétributive et il s'en excuse pas. « Tortue, c'est ce qui est juste, prends-le et va ». Et le « va-t'en » de la traduction m'embête toujours un peu, là. C'est le même « va » que dans tous les textes où il s'agit « va ».
C'est pas enlève-toi
c'est pas,
là.
Toi, là, fiche-moi la paix.
Non, c'est ça.
C'est
tu,
va.
Va tu peux aller.
Comme après la parabole du bon samaritain, va et fais de même. Là. C'est pas va-t'en. Mm-hmm, c'est va, tout simplement, dans le grec. Et ensuite, il va enchaîner une 2e piste de réponse. Tu voudrais que je donne moins à l'autre. Donc, il attaque la 2e solution possible, donner 1 denier comme convenu. Au premier, et puis donner moins aux autres. Alors, tu voudrais que je donne moins à l'autre, donc tu voudrais que j'applique le système de la justice rétributive. La réponse que je te fais ici, c'est que c'est ma liberté de donner mon bien, comme je l'entends. Alors, vous voyez, il ne prétend pas qu'il agit là selon la justice, il agit là selon son droit de donner. Non, ça n'est pas illégal, c'est son droit le plus strict, même en termes de disons, de situation juridique, de faire ce qu'il veut, de ce qu'il veut.
Il est correct.
Il est en loi, il est en loi. Ouais. Ne peut nier son droit de donner son argent à qui il veut. Et le récit insiste sur l'initiative. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Donc, j'ai le droit de poser un geste gratuit. Personne ne peut contester ce droit-là. Alors, vous voyez, il a bien pris en compte dans sa réponse les deux aspects, mais il n'essaie pas de dire « quand je donne à l'autre comme à toi, je fais acte de justice. J'ai fait acte de justice avec toi, à l'autre, je donne. Et alors, c'est mon argent, je peux le donner. » Alors, là, on a parfois un certain malaise... qui peut être lié à l'arbitraire. Pourquoi donner à ceux-là, puis pas aux autres, hein? Et on va assez souvent commenter la parabole dans la direction d'un acte du maître de la vigne qui répare une situation d'injustice sociale, par exemple. C'est toujours les costauds qui sont embauchés le matin et les plus faibles qu'on embauche seulement si on est vraiment mal pris. Le pain, ça coûte le même prix pour tout le monde. C'est une famille à faire vivre. C'est pas parce qu'on t'embauche jamais que tu mérites pas d'avoir un peu d'argent. Donc, vous voyez la condition sociale.
Ouais. Tout ça, ce sont des tentatives là, pour essayer d'expliquer, si
oui,
on peut dire.
Oui, pour justifier cet acte qui nous paraît un peu à côté de la justice normale. Hein? Et donc, on le justifie... C'est pas mauvais de le justifier comme ça dans la mesure où la pratique de Jésus envers les pécheurs, par exemple, ou envers les exclus de la société, va dans cette direction-là. Hein, c'est pas parce que cet homme est un pécheur que je peux pas lui témoigner de la bonté de Dieu, par exemple. C'est pas parce que les enfants ne suivent pas la Torah que je ne vais pas les accueillir sur mes genoux. Voyez, donc, la pratique de Jésus peut aller aussi dans cette direction-là. On pourrait dire aussi qu'il y a, au plan psychologique, disons, on peut la lire comme ça, il y a des bons commentaires qui font ça. Ceux qui sont toujours les derniers, qui intègrent la notion d'être des derniers, de se voir comme... finalement toujours sous-évalué parce que sous-performant, par exemple, c'est pas si étranger au monde dans lequel on vit, ceux qu'on appelle les losers, vous voyez, et donc ils s'attendent à être des losers, puis et là tout à coup voilà quelqu'un qui porte sur eux un regard différent, qui les valorise, qui les gratifie, qui leur fait un cadeau. Mais même si à mon avis cette lecture-là elle est intéressante et porteuse de sens sans aucun doute, elle a l'inconvénient d'affaiblir
ce qu'il y a
de choquant.
Oui, elle enlève le ressort. En anglais, on peut dire le punch. Il y a un ressort dans cette parabole de Jésus qui...
Elle est moins choquante, relue comme ça. Mm-hmm. Par contre, déjà, le punch de la parabole, s'il sert à nous amener à cette lecture-là, c'est quand même
inutile. C'est déjà ça.
C'est déjà ça. Ouais. Mais, au fond, la dernière partie de la réponse du maître met plus en valeur l'aspect choquant lorsqu'il enchaîne en disant « Pourquoi ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? » Et vous voyez, là, ça déplace. Depuis tantôt, ce dont on parle et ce dont les ouvriers parlent, et peut-être les auditeurs de Jésus, c'est en quoi cette attitude du maître ou cette décision est-elle juste ou injuste? Et la question déplace vers « qu'est-ce qu'il y a en toi qui te déplaît dans ce que je fais ?» Non pas « qu'est-ce qu'il y a d'injuste dans ce que je fais ?» mais « pourquoi toi, quand tu me vois généreux, tu deviens mauvais ?» ou « est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon ?» Et il n'y a pas de jugement, c'est une question.
C'est sous forme de question.
C'est ça. Est-ce que ton œil devient jaloux quand tu vois un acte de générosité ? Et que tu n'en es pas le bénéficiaire, c'est de façon sous-entendue, c'est clair que il me semble que c'est aussi une question qu'on peut se poser à nous-mêmes. Est-ce que la vision d'un acte de bonté, de gratuité, nous agace parfois?